Bonjour, je suis Sabrina Payet. La justice, un droit pour tous. Au sein de mon cabinet à Toulouse, j'exerce principalement en droit de la famille et en droit commercial. Je vous propose de vous parler aujourd'hui du divorce judiciaire. Comme son nom l'indique, cette procédure suppose de saisir un juge pour qu'au terme d'une procédure qui durera plusieurs mois, soit rendu un jugement qui prononcera le divorce. Par le biais de son avocat, l'un des époux saisit le tribunal judiciaire par un acte, appelé une assignation, rédigée par l'avocat lui-même et remise à l'autre époux par un huissier, désormais appelé un commissaire de justice. En vertu de cet acte, il est signifié que l'époux demandeur, c'est-à-dire celui qui est à l'initiative de la procédure, souhaite divorcer et qu'à cet effet, une audience aura lieu au tribunal judiciaire, dont l'heure et le lieu sont indiqués dans l'assignation. L'assignation précise que l'époux qui en est le destinataire doit constituer un avocat, c'est-à-dire doit se faire représenter par un avocat. Pour ce type de procédure, comme pour toutes les procédures de divorce, quelles qu'elles soient, chacune des parties doit en effet être représentée par son propre avocat. L'assignation précise, d'une part, les conséquences du divorce souhaité par le demandeur, et d'autre part, les mesures provisoires, c'est-à-dire les mesures qui seront destinées à régir la relation entre les époux, mais également les relations familiales durant toute la procédure de divorce, c'est-à-dire jusqu'au jugement qui prononcera le divorce. L'audience fixée dans l'assignation est celle à l'occasion de laquelle seront évoquées les mesures provisoires destinées à régir les relations familiales pendant la procédure, qui seront reprises dans une décision appelée l'ordonnance d'orientation et sur mesure provisoire. Avant toute chose, cette ordonnance, rendue à la suite de l'audience, à l'occasion de laquelle se déroule un débat contradictoire mené par les avocats en présence des parties, cette ordonnance autorise donc les époux à résider séparément et, au titre des mesures provisoires, statue en fonction des demandes présentées par chacune des parties. Si sur certaines questions, les parties ont réussi à trouver un accord, cet accord sera entériné par le juge dans l'ordonnance. Si par contre restent en suspens des questions de désaccord, chaque partie donnera son point de vue et formulera sa demande auprès du juge qui tranchera la question à l'occasion de l'ordonnance. Ces mesures provisoires portent sur 5 points essentiels. Premièrement, le sort du domicile conjugal. Qui ou quel des époux, pendant la procédure de divorce, va occuper le domicile conjugal et va-t-il l'occuper à titre gratuit ou à titre onéreux? Qui assume les frais liés à ce logement? Le remboursement d'un prêt, des charges de copropriété, les charges de fonctionnement, l'entretien, les taxes, etc. L'un des époux va-t-il devoir ou non verser une pension alimentaire au titre du devoir de secours à l'autre pour lui permettre de vivre dans des conditions décentes ou similaires à celles qui étaient les siennes à l'occasion du mariage, notamment lorsque le créancier de cette pension alimentaire se trouve dans une situation financière délicate. Autre question, qui des deux époux va devoir rembourser les prêts éventuellement souscrits pendant le mariage, prêt à la consommation, prêt pour l'achat d'un véhicule ou tout autre mode de prêt? Et enfin, question qui demeure essentielle à l'occasion d'une procédure de divorce, quel va être le sort des enfants? Comment va s'exercer l'autorité parentale à leur égard? Selon quel mode de vie vont-ils résider, soit chez l'un uniquement des parents, soit chez les deux dans le cadre d'une résidence alternée? Et enfin, quel va être le montant d'une éventuelle pension alimentaire à leur éducation et à leur entretien? Je précise qu'à l'occasion de la procédure de divorce, et dès lors qu'il est question de leur intérêt, les enfants dignes de discernement, capables de discernement, c'est-à-dire en règle générale à partir de l'âge de 11 ou 12 ans, ont la possibilité d'être entendus par le juge par le biais d'un avocat qui leur est propre. À l'occasion de ces débats devant le juge, qui se déroulent en dehors de tout public, les parties doivent justifier de leur situation respective en termes de revenus et charges, afin que le magistrat statue sur les questions financières abordées devant lui. À la suite de l'audience, une ordonnance est donc rendue, qui est immédiatement applicable à compter de sa date, jusqu'au prononcé du divorce, qui, tout en fixant les mesures provisoires, demande ou fait injonction plus précisément aux avocats de conclure sur le fond du divorce, selon un calendrier donné. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il appartiendra à chacun des avocats de préciser par écrit sur quel fondement le divorce doit être prononcé, ce que chaque partie souhaite de façon définitive concernant les enfants. Si une partie souhaite demander une prestation compensatoire, c'est-à-dire si une partie s'estime au moment du divorce lésée, considère qu'il existe une disparité importante entre les situations des deux époux, à la suite de conséquences, à la suite de choix qui ont été faits en commun pendant le mariage entre les époux. Si dès lors une partie s'estime lésée, victime de cette disparité, elle a la possibilité de demander au tribunal de condamner l'autre à lui verser une prestation compensatoire, c'est-à-dire un capital, ou une pension alimentaire pendant une période maximale de 8 ans, ou, dans des conditions très strictes, une rente viagère, afin d'être indemnisé de cette disparité. Il conviendra également que, notamment l'épouse, principalement d'ailleurs l'épouse, se prononce sur le fait de savoir si elle entend ou non continuer à conserver l'usage de son nom d'épouse ou si elle souhaite reprendre l'usage de son nom de jeune fille. À tour de rôle, les avocats vont donc par écrit, au terme d'un acte qui s'appelle des conclusions, préciser les intentions de leur client avec les pièces justificatives. Le tribunal tranchera les désaccords, entérinera les éventuels accords dans une décision, un jugement de divorce rendu après une audience de plaidoirie. Ce divorce pourra alors être prononcé en fonction des demandes de chacun, soit sur demande acceptée, ce qui conduit à un divorce à l'amiable, mais au sujet duquel les époux n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur toutes les conséquences, dont une partie ou la totalité sont donc laissées à l'appréciation du tribunal, soit au bout d'un an de séparation de fait, un époux engage donc la procédure de divorce et le divorce est prononcé de facto, le tribunal n'ayant plus à statuer que sur les conséquences du divorce, soit, et c'est la dernière possibilité, le tribunal prononce un divorce pour faute, au tort exclusif de l'un des époux. Précision étant faite que celui qui sollicite le divorce pour faute doit être en mesure de rapporter la preuve que son époux ou son épouse a violé les devoirs et obligations souscrits à l'occasion du mariage, ce qui peut s'entendre comme étant un abandon du domicile conjugal, un adultère, des violences ou encore d'autres exemples qui constitueraient plus exactement à une violation des devoirs souscrits lors du mariage, c'est-à-dire le devoir de cohabitation, le devoir de secours et le devoir de respect souscrit auprès de son époux. Lorsque la prestation compensatoire est allouée dans le jugement de divorce, il émet fin alors au devoir de secours issu du mariage, de sorte que si au titre des mesures provisoires une pension alimentaire au titre du devoir de secours avait été ordonnée, celle-ci cesse avec le jugement de divorce et est remplacée quelque peu par la prestation compensatoire. Le divorce prononcé suppose également que soit abordée la question de la liquidation du régime matrimonial. Le juge qui prononce le divorce ne peut que sous certaines conditions très strictes intervenir sur le sort des biens meubles ou immeubles acquis par les époux pendant le mariage. En pratique, le plus souvent, il renvoie les parties à trouver un accord devant leur notaire et à défaut d'accord, c'est un autre juge qui doit être saisi pour trancher la difficulté. Tout au long de la procédure, des recours peuvent être exercés en cas de modification dans la situation des parties. Des pièces précises permettant au juge de comprendre les demandes des parties et leur situation doivent être produites pour lui permettre de statuer. Une fois le jugement rendu, il fait l'objet d'une transcription sur les actes d'état civil afin d'être opposable à tous. Une telle procédure dure plusieurs mois. Au minimum, il faut compter environ 10 mois. Précision étant faite qu'une passerelle est toujours possible en cours de procédure vers un divorce conventionnel ou vers un accord que l'on demande au juge d'homologuer. Le coût d'un divorce suppose la prise en charge des honoraires de l'avocat qui sont fonction, selon nos règles professionnelles, de la durée du dossier, de sa difficulté ou de la situation des parties. Précision étant faite que ces honoraires sont évalués dès l'ouverture du dossier et donnent lieu à la signature d'une lettre de mission qui fixe les conditions d'intervention de l'avocat, tant en termes de durée que de détails de la mission, mais également de son coût. La question essentielle à ne pas perdre de vue lors du divorce est celle relative aux enfants et à leur intérêt, qui sera abordée à l'occasion d'une prochaine chronique. Je vous dis au revoir. Bien sûr, si vous souhaitez des renseignements complémentaires, vous pouvez me contacter à mon cabinet. Je vous rappelle mon nom, Sabrina Payet. Mon cabinet se situe 14 rue Perras à Toulouse, où vous pouvez prendre rendez-vous en contactant ma secrétaire Mélanie au 05 61 53 36 21.